Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Comme chaque jour, on vous a préparé des petits bons plans sortis et des recommandations musicales et bien sûr un invité. Notre invité du jour est là pour nous parler d'un grand projet pour la Vienne, c'est le campus Numeria et Marie Bréjon est avec nous, elle est directrice du projet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous parler du campus puisque a eu lieu la pose de la première pierre. Je pense que c'était un événement important.
Absolument, et nous avions choisi collectivement avec les partenaires de ce projet de la réaliser, cette pose de la première pierre, le 11 décembre 2024, à savoir 40 ans après la pose de la première pierre du Parc du Futuroscope, puisque ce projet va s'incarner dans le pavillon historique du Futuroscope.
Alors on va revenir effectivement sur cette implantation, sur qu'est-ce qui va se passer concrètement, mais d'abord, en quelques mots, qu'est-ce que c'est le Campus Numeria, un projet éducatif, numérique, un peu les deux?
Absolument, c'est un projet à la fois éducatif, numérique, et puis c'est un projet qui se construit avec la recherche et les scientifiques, notamment de l'Université de Poitiers, où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Alors ce projet, il a le soutien de France 2030, c'est vraiment dans ce cadre qu'il s'est co-construit. Il s'est co-construit avec une vingtaine de partenaires que peut-être je vous énoncerai tout à l'heure si vous le souhaitez, c'est important, puisque c'est vraiment la pluralité des partenaires qui sont co-porteurs de ce projet, qui ont des compétences, qui ont des visions complémentaires, qui fait la, on va dire, l'envergure de ce campus Numeria.
Et peut-être rappeler aussi à nos auditeurs auditrices France 2030, quels sont un peu les objectifs
Absolument. Alors France 2030 a différents objectifs, donc qui ont qui doivent permettre à la France d'innover et devenir vraiment très fort dans un certain nombre de domaines, industriels par exemple. Et là, en l'occurrence, pour ce qui concerne l'éducation, d'accompagner la transformation numérique de l'école et de la formation. Et c'est dans ce cadre que nous nous situons avec le campus Numeria, permettre finalement à l'école de bénéficier intégrer des innovations qui soient des innovations technologiques, pédagogiques, et qui fassent finalement que les élèves, avec ces innovations, puissent accéder aux apprentissages scolaires.
Et comment ont été déterminés justement ces objectifs-là? Est-ce que c'était une envie de l'éducation nationale, un manque de moyens dans ces domaines-là?
Je dirais que, en fait, ce projet, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre effectivement le monde de l'éducation nationale et ses aspirations en termes de transformation de l'école à l'aune des évolutions de la société. Mais également, c'est la rencontre avec l'histoire d'un territoire qui est celle qui a initialement été réalisée par René Monory, de faire de ce territoire un territoire où finalement le numérique et l'éducation soient précurseurs et où les réflexions autour du numérique, de l'éducation et de la formation, que ce territoire soit un terreau sur ce sujet-là.
Alors vous avez prévu d'accueillir environ 10 000 élèves, 2 000 enseignants et formateurs par an, je crois que c'est ça à peu près les chiffres. Comment on établit ça? D'où viendront-ils? Quel est le public visé?
Absolument. Alors, d'abord peut-être pour revenir quelques petits mots sur l'histoire et la genèse, il faut savoir que donc moi je suis Marie Bréjon et je travaille comme directrice de projet à la préfecture de la Vienne, parce que ce projet de campus Numeria qui s'appelle Pôle numérique pour l'éducation et la formation, le campus Numeria si vous voulez c'est le nom de scène du pôle numérique pour l'éducation et la formation, eh bien il a vocation à être un projet structurant de territoire qui rayonne au niveau national. Et donc avec l'ensemble des partenaires que je vais peut-être maintenant citer, on a parlé du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse bien sûr, mais aussi l'Académie de Poitiers, évidemment, sur le territoire qui est le partenaire majeur en matière d'éducation, et puis l'Université de Poitiers, les collectivités, notamment le département de la Vienne, qui, vous le savez certainement, est propriétaire du pavillon historique du Futuroscope dans lequel se construit ce projet, la région Nouvelle-Aquitaine, les opérateurs de l'éducation nationale qui avaient été apportés par René Monory, Canopé, le CNED, l'IH2EF, et puis des partenaires comme l'ONICEP, les partenaires de la formation comme l'ISAE Lancema, des partenaires privés aussi, j'ai parlé du Futuroscope, mais également le GIE VR Connexion qui rassemble l'ensemble des entreprises de la réalité virtuelle au niveau national. Ce sont des consortiums qui sont construits et d'autres partenaires privés. Eh bien, cette vingtaine de partenaires se sont mis ensemble pour pouvoir co-construire ce projet, comme je le disais, avec l'ensemble de leurs compétences. On a choisi de l'implanter physiquement au Futuroscope parce que le Futuroscope accueille aujourd'hui déjà 150 000 scolaires chaque année venus de l'ensemble du territoire national. Vous en avez 12 000 de l'Académie de Poitiers, évidemment académie la plus représentée, et c'est bien naturel qu'un projet s'implante sur son territoire, mais vous en avez tout autant, 12 000 de l'Académie de Versailles, vous en avez 10 000 de l'Académie de Nantes, vous en avez 7 500 de l'Académie de Lille, vous en avez 5 500 de Bordeaux, 5 500 de Créteil, vous en avez de toutes les académies de France, vous en avez même 120 l'année dernière de l'Académie de Corse. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des académies, effectivement, aujourd'hui, envoient des élèves sur le Futuroscope pour réaliser, alors des sorties scolaires principalement, évidemment, mais aussi le Futuroscope a historiquement cherché à donner des scénarios pédagogiques à ces abstractions. Donc là, on va faire quelque chose de beaucoup plus conséquent. Mais donc, on a bien vocation à capter ces scolaires et à leur offrir finalement un parcours parallèle à leur visite au Futuroscope. Donc, on vise 10 000, j'ai envie de dire, élèves en atelier encadré par des professionnels, mais c'est bien le minimum de ce que l'on vit, c'est ce que l'on a écrit dans le dossier pour pas nous mettre d'emblée, j'ai envie de dire, une pression importante, mais dans la mesure où ils sont déjà 150 000 au Futuroscope, on a effectivement une marge de progression tout à fait évidente.
Et si on revient sur ce pavillon, vous disiez historique un petit peu, ou en tout cas symbolique pour le territoire, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi c'est important et symbolique justement de se retrouver dans ce pavillon-là, Futuroscope ?
Alors c'est symbolique parce que ce pavillon, il avait vocation à être ce qu'on appelait autrefois l'observatoire du futur et à faire réfléchir sur comment les nouvelles technologies vont permettre de servir le développement humain. Hein, c'est bien le sens de ce projet, c'est de pouvoir réfléchir en fait à l'avènement de ces nouvelles technologies, réfléchir avec un regard critique et les utiliser à bon escient et accompagner les jeunes à les utiliser à bon escient. Et donc dans les parcours que nous construisons pour eux, nous avons évidemment pris en compte l'âge des jeunes qui vont les réaliser, c'est-à-dire que pour les petits de maternelle, il ne s'agira pas de les mettre face à des écrans ou à des outils numériques, mais plutôt de les faire réfléchir sur l'usage des écrans et des outils numériques à travers une histoire que je pourrais vous conter. Et puis pour les plus âgés, on va être sur des choses beaucoup plus élaborées. Par exemple, nous avons un parcours qui traite du bâtiment intelligent. Nous allons instrumenter le bâtiment du Futuroscope, le fameux pavillon du Futuroscope, avec un certain nombre de capteurs, et nous permettrons aux jeunes lycéens de réfléchir à comment un bâtiment vie à travers le capteur, en captant en fait un certain nombre de données, et donc à travers ces captations de réfléchir à comment l'utiliser en ayant une utilisation optimum, par exemple liée au coût énergétique que peut dépenser un bâtiment qui vit parce qu'il accueille du public, etc. Donc on va finalement différencier nos parcours à travers les âges et puis utiliser les outils numériques de manière évidemment tout à fait différente.
Alors, est-ce qu'on peut parler, avant de rentrer vraiment dans le bâtiment lui-même, du budget, donc à la fois pour équiper le bâtiment et sur le fonctionnement, comment ça se répartit aussi entre les partenaires et concrètement dans l'application sur le bâtiment et son fonctionnement ?
Bien sûr. Alors, nous avons un budget global qui est de 11,7 millions d'euros sur 5 ans. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un projet qui prend son ancrage dans France 2030. Donc sur ces 11,7 millions d'euros apportés par le collectif, on a 5,3 millions qui sont apportés dans le cadre de France 2030. Donc c'est un apport de l'État, si vous voulez. Et puis on a aussi, je le disais tout à l'heure, le département de la Vienne qui est propriétaire de ce pavillon et qui donc donne une somme de 1,2 million pour sa rénovation dans le cadre de ce projet, pour qu'il soit vraiment, on va dire, aménagé pour permettre à ce projet de se réaliser. Et puis la SEM patrimoniale de la Vienne, qui est aussi un outil, on va dire, qui est fortement conduit par le département, qui, elle, donne aussi 1,50 million d'euros aussi pour l'aménagement de ce pavillon, qui met une subvention de 5 millions. Donc, on a ces subventions-là. Bien sûr, chacun des partenaires participe, le rectorat participe, la préfecture participe, puisque je suis là devant vous et que finalement, elle finance mon salaire sur tout ce temps. L'université participe à travers ses chercheurs, le réseau Canopé, l'IH2EF, enfin, j'ai parlé de l'ONICEP également. Les entreprises participent. Samsung, par exemple, va donner le matériel numérique nécessaire à, en tout cas, une partie de ce matériel nécessaire aux usages des jeunes, comme l'État tablettes, les ordinateurs, des écrans aussi géants pour pouvoir faire un certain nombre de diffusions. Et puis, nous avons des contributions, effectivement, à la fois de VR Connexion qui fabrique des contenus en réalité virtuelle, par exemple. Enfin, chacun met un petit peu au pot. Et puis, le Futuroscope, bien sûr, qui va financer toute la partie, par exemple, de fonctionnement de ce pavillon. Et ce pavillon, il faudra le chauffer. Ben, c'est le Futuroscope qui prendra ça en charge. Ce pavillon, il faudra aussi accueillir les jeunes, les faire venir. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui seront pris par chacun des partenaires, suivant les compétences de chacun, comme je le disais tout à l'heure.
On parle aujourd'hui du campus Numeria, le pôle numérique qui va prendre place au pavillon du Futuroscope. Je vous propose juste une petite pause musicale puisqu'on a prévu de vous faire découvrir ceux qui participent aux auditions régionales de la 40e édition des Inouïs du printemps de Bourges. Et juste après, on rentre dans le pavillon pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement à l'intérieur. C'est Marco Del Bosque avec ce titre « Is this love enough ?»
Puissance de professionnel, je dirais.
Puissance.
Ça, c'est bizarre.
Il est étoile en plus.
Marie Brégeante de la préfecture de la Vienne est avec nous aujourd'hui. Elle est directrice du projet Campus Numeria. Et on parle effectivement dans un an, ça doit avoir le jour. La première pierre a été posée, c'est même moins d'un an. Racontez-nous maintenant un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça a été créé en collaboration avec des chercheurs, des pédagogues.
Alors absolument, c'est encore en cours de création. Donc on a, d'ailleurs si vous allez sur l'espace Campus Numeria qui est hébergé par l'Académie de Poitiers, vous pourrez rentrer en visite virtuelle dans le pavillon. Donc je vous invite tous à aller découvrir ce pavillon tel qu'il ouvrira dans un an en réalité virtuelle. Donc vous entrerez dans un vaste espace d'exposition où nous aurons à droite des écrans avec, on va dire, une expérience qui amènera les élèves à se poser. Vous irez dans la forêt de Molière et dans les champs alentours, et si vous ne faites pas de bruit et que vous ne bougez pas, vous verrez s'approcher les animaux. Mais si vous faites du bruit et que vous bougez, comme dans la vraie vie, probablement qu'ils s'en iront. Et puis il y aura donc des expositions d'élèves qui seront proposées en lien avec les établissements scolaires de l'académie, qui pourront exposer un certain nombre de productions artistiques liées à des thématiques que nous co-choisissons ensemble. Et puis vous rentrerez dans différents espaces. Chaque espace accueillera des ateliers qui seront donc proposés aux jeunes, des ateliers qui commencent en classe, qui passent par le pavillon du Futuroscope et qui se terminent en classe, parce que sur cette durée, on compte installer des compétences, bien entendu. Et donc, ces ateliers seront donc proposés selon les âges et puis selon des thématiques que pourront choisir les professeurs en fonction de ce qu'ils souhaitent réaliser avec leurs élèves. Il y aura aussi des ateliers de formation pour les personnels de l'éducation nationale en lien avec Réseau Canopé et avec l'école académique de la formation continue de l'Académie de Poitiers, et aussi pour les personnels d'encadrement de l'éducation nationale en lien avec l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation.
Le but, c'est que ça s'adapte à différents niveaux scolaires et donc il y a des parcours qui ont été imaginés.
Tout à fait. Alors, je peux vous en donner quelques-uns comme illustration, si vous le voulez. Je vous ai parlé tout à l'heure du parcours bâtiment intelligent. Si je rentre par l'ordre de grandeur des enfants, on a des enfants de maternelle et de cycle 2, CP, CE1, pour lesquels on proposera un parcours qui s'appellera bien-être numérique, lié à l'acquisition des compétences psychosociales, qu'on travaille avec une association qui a été créée par des professeurs de l'Académie de Poitiers qui s'appelle Mathebdo. Et donc, les enfants vont rencontrer un personnage qui s'appelle Josette. Et Josette, elle a trop regardé son téléphone et elle s'est mise très en colère, elle a cassé son téléphone, elle s'est fâchée avec tous ses amis. Et donc les enfants et les amis de Josette vont devoir l'aider à retrouver une bonne santé psychologique, physique et puis cognitive, donc en réalisant un certain nombre d'activités dans le cadre de cet atelier pour apporter à Josette finalement les bons ingrédients, les bonnes compétences psychosociales qui lui permettra de retrouver ce bien-être finalement physique, cognitif et psychologique. Il y aura, voilà.
Ça, c'est aussi une question, exemple. Il y a aussi la question du numérique responsable, quoi, c'est-à-dire
absolument.
Savoir l'utiliser.
En fait, on avait trois thématiques initialement, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, trois thématiques majeures. La thématique de la citoyenneté numérique, où on est vraiment sur des questions liées aux usages du numérique. Donc le bâtiment intelligent, par exemple, pour les plus grands, pour les lycéens, en fait partie. Et puis le scénario de bien-être numérique que j'ai exposé aussi. On a des sujets de robotique et de programmation qui sont vraiment liés à l'acquisition des compétences numériques, qu'on travaille avec le service régional académique, donc de la région académique, au numérique pour l'éducation, donc, et avec les professeurs de technologie qui finalement travaillent en étroite collaboration avec ce service. Donc c'est lui qui pilote et puis qui va proposer un certain nombre de parcours, alors là aussi pour tous les âges, avec des robots, parce que des robots on en a pour les tout petits, on en a évidemment pour les bien plus grands, et donc les usages sont tout à fait différents et sont tout à fait finalement graduellement, dans une progression. Donc on aura des parcours pour tous les âges sur ces thématiques de la programmation robotique. On aura aussi des parcours sur ce qui porte sur la découverte des métiers et la formation professionnelle. Donc on aura des parcours de découverte des métiers sur des champs professionnels que l'on a déjà prédéfinis ensemble et sur lesquels on travaille actuellement pour produire des ressources. Je pourrais vous en parler de manière plus précise. Et puis on aura un parcours en cognition humaine et artificielle. Donc c'est comprendre comment fonctionne notre cerveau. et finalement comment c'est les, enfin, et donc les fonctions cognitives en situation, et comprendre finalement comment bien utiliser ou comment être en bonne situation d'apprendre suivant comment fonctionne notre cerveau. Donc on a aussi une histoire que l'on raconte à travers sur ce parcours précisément.
Et comment tous ces parcours restent un peu d'actualité ? On sait que la technologie va à une vitesse folle. Voilà, comment on arrive à rester dans le coup, entre guillemets, dans un, quelque chose qui prône le numérique et les nouvelles technologies ?
Ben, c'est-à-dire que nous, on est beaucoup sur les usages et sur la réflexion sur les usages. Alors, c'est vrai que les nouvelles technologies, on va dire, comme dans la mesure où il y en a finalement... tous les jours, enfin ça progresse tous les jours, ça change. Il faut toujours renouveler les usages, mais justement, j'ai envie de dire, c'est très important d'avoir des lieux d'expertise dans lesquels on se penche sur les usages du numérique en prenant en compte ces évolutions. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est le point essentiel, c'est-à-dire qu'on se focalise sur les usages et puis après sur apprendre le numérique, mais je pense qu'on reste en étroite connexion avec ce que l'école souhaite réaliser et que donc par ce biais, finalement, on arrive à rester dans la vraie vie.
Et alors, quelles sont les différentes étapes qu'il faut encore franchir pour l'ouverture de ce campus ?
Alors là, aujourd'hui, par rapport au parcours, par exemple, pour poursuivre, on a finalisé l'ensemble de nos scénarios et on est dans la production de ressources. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vous parlais tout à l'heure du parcours en cognition humaine et artificielle. On a créé un environnement virtuel que l'on peut voir sous casque ou sur tablette, suivant à la fois l'âge des jeunes ou des adultes, et puis leur capacité ou non à supporter, j'ai envie de dire, d'être dans un casque de réalité virtuelle, parce que ça dépend aussi des gens. Donc, on a eu une veille à vraiment... finalement assez largement adapter nos supports et nos ressources. Donc on a réalisé tout le scénario et on est dans la phase de finalisation, c'est-à-dire qu'on teste nos ressources, on teste cette ressource. On a un avatar qui s'appelle Mia, là aussi vous allez pouvoir le voir si vous allez sur le site du campus Numeria, et qui va vous permettre de tester vos fonctions cognitives et de comprendre un certain nombre de choses. De comprendre par exemple qu'on ne peut pas bien faire deux choses en même temps. Ce n'est pas possible, on ne peut pas à la fois, en tout cas ce n'est pas possible sans faire d'erreurs. Et quand on essaye de faire deux choses en même temps, eh bien on fait des erreurs. Et donc ça permettra par exemple aux jeunes de comprendre qu'on ne peut pas écouter son camarade et écouter son professeur. En fait, ça n'est pas possible, même si on pense que peut-être on y arrive. Non, ça ne se fait pas comme ça.
On y a tous cru,
voilà. Donc, en fait, en illustrant comme ça de manière ludique, avec ce petit avatar, un certain nombre de situations où on est emmené à tester nos fonctions cognitives, eh bien après, ça permet au médiateur, c'est-à-dire à la personne qui va accompagner la classe au sein du lieu, eh bien de faire un feedback et de revenir sur ce qui aura été vécu dans l'environnement virtuel pour faire comprendre et faire passer un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait scientifiques et qui ne sont pas forcément très bien connus par les élèves eux-mêmes ou par la population de manière plus générale.
Donc, finalisation des parcours, en tout cas, vous êtes en phase de test. Et ensuite, ouverture à quelle échéance ?
Alors, finalisation des parcours, évidemment, finalisation et même mise en place des travaux, hein, parce qu'on a un certain nombre de travaux à réaliser. Le pavillon, aujourd'hui, il n'est pas du tout ce qu'il sera demain. C'est-à-dire, il est dans son aspect extérieur, ça, il n'y a pas de problème, on n'y touchera pas. Mais dans son aspect intérieur, il a besoin de tout un tas de choses, ce bâtiment, pour pouvoir accueillir les classes. Donc, tous les travaux, j'ai envie de dire les plans, tout ce que l'on va faire dedans est bien arrêté. Les entreprises sont quasiment recrutées. On a fait déjà un certain nombre de choses, mais maintenant on se met dans le dur et quelque part on réaménage ce pavillon de manière à ce qu'il puisse accueillir l'ensemble de ses élèves. Tout ça va nous conduire bon an mal an à l'automne fin d'année 2025 et ce pavillon sera ouvert fin d'année 2025.
L'objectif, c'est ça, fin 2025, ouverture.
Ouverture fin 2025. Et on aura une phase de test qui va durer sans doute un mois et demi pour nous accaparer un petit peu l'environnement qui aura été créé, faire les tests matériels, technologiques, etc. et vérifier que tout fonctionne. On aura d'ici là recruté, bien entendu.
J'allais vous demander, il y a une phase de recrutement, j'imagine.
Absolument, qui a démarré. On va recruter, alors, à travers l'université, deux personnels. Un personnel pour finalement accompagner la chef chefferie de projet à mes côtés et faire la coordination avec moi. Un personnel plutôt sur l'aspect recherche et accompagnement des parcours. Et puis, on aura aussi 5 personnels recrutés. Alors, 3 par le GIP pour faire la médiation numérique et 2 par le rectorat dès cette année. Et en janvier 2026, on en aura un qui sera recruté par Canopée. Donc, ces 5-là, plus le 1 recruté par Canopée, auront vocation à accueillir les classes et à faire le lien avec les différents partenaires du projet pour la mise en œuvre des parcours, à la fois pour les jeunes, mais aussi pour les personnels de l'éducation nationale.
Merci beaucoup Marie Bréjon, donc directrice de ce projet Campus Numéria à la préfecture de la Vienne, d'être venue nous en parler. Et voilà, plus que quelques mois à attendre avant l'ouverture, et encore beaucoup de travail, on l'entend.
Merci beaucoup à vous pour votre accueil et je serai ravie de revenir quand les choses auront encore avancé pour vous dire où on en est. Et puis même vous inviter, si vous le souhaitez, à venir voir puisque vous n'êtes pas situé bien loin du pavillon du Futuroscope.
Tout à fait, merci beaucoup. Demain dans Séquence Midi, on parlera de l'initiative du club Rhino Rugby Teuil Nouvelle Ovalie. Je fais du sport et mes enfants s'amusent. Et puis, on parlera aussi du changement de nom de Jazz à Poitiers. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Biomimétisme, la nature, source d'inspiration. C'est une exposition qui débute aujourd'hui à l'espace Mendès France, découverte d'un processus qui s'inscrit dans le respect de l'environnement et plus globalement dans une démarche de développement durable. Le biomimétisme, c'est observer, imiter la nature et s'en inspirer afin de concevoir des applications innovantes. Place publique vous propose en 2025 des cafés citoyens. L'objectif est d'échanger, rencontrer, écouter les populations autour d'une thématique très concrète de leur vie. Et ce premier café citoyen aura lieu donc sur le thème de la jeunesse. C'est à 17h30 à Poitou Habitat Jeune, au quartier des Couronneries. On continue avec une exposition de l'ONG Initiative Développement ID, donc qui est engagée depuis 20 ans au Tchad et qui vous invite au vernissage de l'exposition Transmission réalisée par le photographe poitevin Pico Paseos et son homologue tchadien Gigi Leblac. C'est à 18h30 au Centre socioculturel de la Blaiserie à Poitiers, toujours. Et puis au Republic Corner, Republic Games à 20h. C'est un nouveau concept de championnat sur toute l'année, début de l'animation à 20h. Soirée jeux de société aussi à la Loco à 20h, donc boulevard du Grand Serre à Poitiers, et puis des chants traditionnels, c'est au Bibliocafé. Sur Pulsar à 18h, c'est Talasso, 19h, Slamatouva qui reçoit Aminta, celle que vous entendez depuis 10 ans chanter dans les rues de Poitiers, qui sort son premier album. À 20h, Pétale de Sakura, 21h, Culture Dub, et 23h, Novorama. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. On découvre Fire and Studio Mental Mutilation, et c'est aussi quelqu'un qui est aux Inuits du Printemps de Bourges. Bon après-midi en musique, à demain.